Spinoza, Éthique, traduction Charles Apoun, troisième partie, fichier, suite et fin de la partie. Définition des affections. Le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par une affection quelconque donnée en elle. Explication. Nous avons dit plus haut dans le scoli de la proposition 9 que le désir est l'appétit avec conscience de lui-même et que l'appétit est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est déterminée à faire les choses servant à sa conservation. Mais j'ai fait observer dans ce même scoli que je ne reconnais en réalité aucune différence entre l'appétit de l'homme et le désir. Que l'homme, en effet, ait ou n'ait pas conscience de son appétit, cet appétit n'en demeure pas moins le même. Et ainsi, pour ne pas avoir l'air de faire une tautologie, je n'ai pas voulu expliquer le désir par l'appétit, mais je me suis appliqué à le définir de façon à y comprendre tous les efforts de la nature humaine que nous désignions par les mots d'appétit, de volonté, de désir ou d'impulsion. Je pouvais dire que le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose. Mais il ne s'ensuivrait pas de cette définition, proposition 23, partie 2, que l'âme pût avoir conscience de son désir ou de son appétit. Donc, pour que la cause de cette conscience fût enveloppée dans ma définition, il m'a été nécessaire, même proposition, d'ajouter « en tant qu'elle est déterminée par une affection quelconque donnée en elle, etc. » Car, par une affection de l'essence de l'homme, nous entendons toute disposition de cette essence, qu'elle soit innée ou acquise, qu'elle se conçoive par le seul attribut de la pensée ou par le seul attribut de l'étendue, ou enfin se rapporte à la fois aux deux. J'entends donc, par le mot « désir », tous les efforts, impulsions, appétits et volitions de l'homme, lesquels varient suivant la disposition variable d'un même homme et s'opposent si bien les uns aux autres que l'homme est traîné en divers sens et ne sait où se tourner. 2. La joie est le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. 3. La tristesse est le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection. Explication. Je dis passage, car la joie n'est pas la perfection elle-même. Si en effet l'homme naissait avec la perfection à laquelle il passe, il la posséderait sans affection de joie. Cela se voit plus clairement dans l'affection de la tristesse qui lui est opposée. Que la tristesse, en effet, consiste dans un passage à une perfection moindre et non dans la perfection moindre elle-même, nul ne peut le nier, puisque l'homme ne peut être contristé en tant qu'il a part à quelque perfection. Et nous ne pouvons pas dire que la tristesse consiste dans la privation d'une perfection plus grande, car une privation n'est rien. L'affection de tristesse est un acte, et cet acte ne peut, en conséquence, être autre chose que celui par lequel on passe à une perfection moindre, c'est-à-dire l'acte par lequel est diminuée ou réduite la puissance d'agir de l'homme. Voir Scoli de la proposition 11. J'omets en outre les définitions de la gaieté, du chatouillement, de la mélancolie et de la douleur, parce que ces affections se rapportent éminemment au corps et ne sont que des espèces de joie ou de tristesse. 4. Il y a étonnement quant à l'imagination d'une chose, l'âme demeure attachée, parce que cette imagination singulière n'a aucune connexion avec les autres. Voir proposition 52 avec son scoli. Explication. Dans le scoli de la proposition 18, partie 2, nous avons montré pour quelle cause l'âme passe aussitôt de la considération d'une chose à la pensée d'une autre, savoir parce que les images de ces choses sont enchaînées entre elles et ordonnées de façon que l'une suive l'autre. Or, on ne peut concevoir qu'il en soit ainsi quand l'image de la chose est nouvelle. Mais alors, l'âme sera retenue dans la considération de cette chose jusqu'à ce qu'elle soit déterminée par d'autres causes à penser à d'autres. Considérée en elle-même, l'imagination d'une chose nouvelle est donc de même nature que les autres, et pour ce motif, je ne range pas l'étonnement au nombre des affections, et je ne vois pas de motif pour le faire, puisque, si l'âme est distraite de toute autre pensée, cette distraction qu'elle subit ne provient d'aucune cause positive, mais seulement de l'absence d'une cause qui, de la considération d'une certaine chose, la détermine à penser à d'autres. Je reconnais donc seulement trois affections primitives ou fondamentales, comme dans le scoli de la proposition 11, savoir celle de la joie, de la tristesse et du désir. Et si j'ai dit quelques mots de l'étonnement, c'est parce que l'usage s'est établi de désigner certaines affections dérivant des trois primitives par d'autres noms quand elles se rapportent à des objets qui nous étonnent. Pour le même motif, je joindrai ici la définition du mépris. 5. Il y a mépris quand, par l'imagination d'une chose, l'âme est si peu touchée que la présence de cette chose soit pour elle un motif d'imaginer ce qui ne s'y trouve pas plutôt que ce qui s'y trouve. Voir scoli de la proposition 52. Je laisse ici de côté la définition de la vénération et du dédain parce que nulles affections que je sache ne tirent de là leur nom. 6. L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Explication. Cette définition explique assez clairement l'essence de l'amour. Pour celle des auteurs qui définissent l'amour comme la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée, elle n'exprime pas l'essence de l'amour mais sa propriété. Et, n'ayant pas assez bien vu l'essence de l'amour, ces auteurs n'ont pu avoir non plus aucun concept clair de sa propriété. Ainsi est-il arrivé que leur définition ait été jugée extrêmement obscure par tous. Il faut observer, toutefois, qu'en disant que cette propriété consiste dans la volonté qu'a l'amant de se joindre à la chose aimée, je n'entends point par volonté un consentement ou une délibération, c'est-à-dire un libre décret. Nous avons démontré, proposition 48, partie 2, que c'était là une chose fictive. Non pas même un désir de se joindre à la chose aimée quand elle est absente, ou de persévérer dans sa présence quand elle est là. L'amour peut se concevoir, en effet, sans l'un ou sans l'autre de ses désirs. Mais par volonté, j'entends le contentement qui est dans l'amant à cause de la présence de la chose aimée. Contentement par où la joie de l'amant est fortifiée ou au moins alimentée. 7. La haine est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Explication. On perçoit facilement ce qu'il faut observer ici par ce qui a été dit dans l'explication précédente. Voir en outre le scoli de la proposition 13. 8. L'inclination est une joie qu'accompagne l'idée d'une chose qui est cause de joie par accident. 9. l'aversion est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose qui est cause de tristesse par accident. Voir au sujet de ces affections le scoli de la proposition 15. 10. La ferveur est l'amour à l'égard de celui qui nous étonne. Explication. Nous avons montré, proposition 52, que l'étonnement naît de la nouveauté d'une chose. Si donc il arrive que nous imaginions souvent ce qui nous étonne, nous cesserons de nous étonner. Nous voyons donc que l'affection de la ferveur peut aisément dégénérer en amour simple. 11. La dérision est une joie née de ce que nous imaginons qu'il se trouve quelque chose à mépriser dans une chose que nous haïssons. Explication. En tant que nous méprisons la chose que nous haïssons, nous nions d'elle l'existence, voire scoli de la proposition 52. Et dans cette mesure, nous sommes joyeux, proposition 20. Mais puisque nous supposons que l'homme a cependant en haine l'objet de sa dérision, il suit de là que cette joie n'est pas solide, voire scoli de la proposition 47. 12. L'espoir est une joie inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons en quelque mesure. 13. La crainte est une tristesse inconstante, née de l'idée d'une chose future ou passée, de l'issue de laquelle nous doutons en quelque mesure. Voir sur ces affections le scoli 2 de la proposition 18. Explication. Il suit de ces définitions qu'il n'y a pas d'espoir sans crainte, ni de crainte sans espoir. Qui est en suspens dans l'espoir, en effet, et dans le doute au sujet de l'issue d'une chose, est supposé imaginer quelque chose qui exclut l'existence d'un événement futur. En cela donc, il est contristé, proposition 19. Et conséquemment, tandis qu'il est en suspens dans l'espoir, il craint que l'événement ne soit pas. Qui, au contraire, est dans la crainte, c'est-à-dire dans le doute au sujet de l'issue d'une chose qu'il est, imagine aussi quelque chose qui exclut l'existence d'un événement. Et ainsi, proposition 20, il est joyeux. Et, en cela, a donc l'espoir que l'événement ne soit pas. 14. La sécurité est une joie née de l'idée d'une chose future ou passée, au sujet de laquelle il n'y a plus de cause de doute. 15. Le désespoir est une tristesse née de l'idée d'une chose future ou passée, au sujet de laquelle il n'y a plus de cause de doute. Explication. La sécurité naît donc de l'espoir et le désespoir de la crainte quand il n'y a plus de cause de doute au sujet de l'issue d'une chose. Cela vient de ce que l'homme imagine comme étant là la chose passée ou future et la considère comme présente, ou de ce qu'il en imagine d'autre, excluant l'existence de celle qui avait mis le doute en lui. Bien que, en effet, nous ne puissions jamais être certains de l'issue des choses singulières, corollaire de la proposition 31 partie 2, il arrive cependant que nous n'en doutions pas. Autre chose, en effet, nous l'avons montré, scoli de la proposition 49 partie 2, est ne pas douter d'une chose et autre chose en avoir la certitude. Il peut arriver ainsi que par l'image d'une chose passée ou future, nous soyons affectés de la même affection de joie ou de tristesse que par l'image d'une chose présente. Comme nous l'avons démontré dans la proposition 18, où nous renvoyons ainsi qu'à ses scoli. 16. L'épanouissement est une joie qu'accompagne l'idée d'une chose passée, arrivée inespérément. 17. Le resserrement de conscience est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose passée, arrivée contrairement à notre espoir. 18. La commisération est une tristesse qu'accompagne l'idée d'un mal arrivé à un autre que nous imaginons être semblable à nous. Voir scolie de la proposition 22 et scolie de la proposition 27. Explication. Entre la commisération et la miséricorde, il ne paraît y avoir aucune différence, sinon peut-être que la commisération a rapport à une affection singulière, la miséricorde a une disposition habituelle à l'éprouver. 19. La faveur est un amour envers quelqu'un qui a fait du bien à un autre. 20. L'indignation est une haine envers quelqu'un qui a fait du mal à un autre. Explication. Je sais que ces mots ont, dans l'usage ordinaire, un autre sens, mais mon dessein est d'expliquer la nature des choses et non le sens des mots, et de désigner les choses par des vocables dont le sens usuel ne s'éloigne pas entièrement de celui où je les emploie. Cela soit observé une fois pour toutes. Pour la cause de ces affections, je renvoie en outre au corollaire 1 de la proposition 27 et au scolie de la proposition 22. 21. La surestime consiste à faire de quelqu'un par amour plus de cas qu'il n'est juste. 22. La mésestime consiste à faire de quelqu'un par haine moins de cas qu'il n'est juste. Explication. La surestime est donc un effet ou une propriété de l'amour, la mésestime de la haine. La surestime peut donc être définie comme étant l'amour en tant qu'il affecte l'homme de telle sorte qu'il fasse de la chose aimée plus de cas qu'il n'est juste, et au contraire, la mésestime comme étant la haine en tant qu'elle affecte l'homme de telle sorte qu'il fasse de celui qu'il a en haine moins de cas qu'il n'est juste. Voir sur ses affections le scolie de la proposition 26. 23. L'envie est la haine en tant qu'elle affecte l'homme de telle sorte qu'il soit contristé par la félicité d'autrui et au contraire s'épanouisse du mal d'autrui. Explication. À l'envie s'oppose communément la miséricorde, qui peut donc, en dépit du sens du mot, se définir ainsi. 24. La miséricorde est l'amour en tant qu'il affecte l'homme, de telle sorte qu'il s'épanouisse du bien d'autrui et soit contristé par le mal d'autrui. Explication. Voir en outre sur l'envie le scolie de la proposition 24 et le scolie de la proposition 32. Telles sont les affections de joie et de tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose extérieure comme cause ou par elle-même ou par accident. Je passe aux affections qu'accompagne comme cause l'idée d'une chose intérieure. 25. Le contentement de soi est une joie née de ce que l'homme se considère lui-même et sa puissance d'agir. 26. L'humilité est une tristesse née de ce que l'homme considère son impuissance ou sa faiblesse. Explication. Le contentement de soi s'oppose à l'humilité en tant que nous entendons par lui une joie née de ce que nous considérons notre puissance d'agir, mais en tant que nous entendons par contentement de soi une joie qu'accompagne l'idée d'une chose que nous croyons avoir faite par un libre décret de l'âme. Il s'oppose au repentir que nous définissons ainsi. 27. Le repentir est une tristesse qu'accompagne l'idée d'une chose que nous croyons avoir faite par un libre décret de l'âme. Explication. Nous avons montré les causes de ces affections dans le scoli de la proposition 51, dans les propositions 53, 54 et 55, et le scoli de cette dernière. Sur le libre décret de l'âme, voir scoli de la proposition 35, partie 2. Il faut, en outre, noter ici qu'il n'est pas étonnant qu'en général, tous les actes coutumièrement appelés mauvais soient suivis de tristesse, et ceux qu'on dit droits de joie. Cela dépend au plus haut point de l'éducation, comme on le connaît facilement par ce qui précède. Les parents, en effet, désapprouvant les premiers et faisant à leurs enfants de fréquents reproches à leur sujet, les exhortant au second, au contraire, et les louant, ont fait que des émois de tristesse fussent joints aux uns et des mouvements de joie aux autres. Cela est confirmé par l'expérience, car la coutume et la religion n'est point partout la même, mais au contraire, ce qui est sacré pour les uns est pour les autres profane, et ce qui est honnête chez les uns, vilain chez les autres. Suivant donc que chacun a été élevé, il se repent de telles choses faites par lui ou s'en glorifie. 28. L'orgueil consiste à faire de soi-même, par amour, plus de cas qu'il n'est juste. Explication. L'orgueil diffère donc de la surestime en ce que celle-ci se rapporte à un objet extérieur. L'orgueil à l'homme même qui fait de lui plus de cas qu'il n'est juste. En outre, de même que la surestime est un effet ou une propriété de l'amour, l'orgueil découle de l'amour-propre et peut donc se définir l'amour de soi ou le contentement de soi-même en tant qu'il affecte l'homme de telle sorte qu'il fasse de lui-même plus de cas qu'il n'est juste. Voir scoli de la proposition 26. Il n'y a pas d'affection opposée à celle-là, car personne, par haine de soi, ne fait de soi trop peu de cas, et même personne ne fait de soi moins de cas qu'il n'est juste en tant qu'il imagine ne pouvoir ceci ou cela. Tout ce que l'homme imagine qu'il ne peut pas, en effet, il l'imagine nécessairement, et est disposé par cette imagination de telle sorte qu'il ne puisse réellement pas faire ce qu'il imagine ne pas pouvoir. Car aussi longtemps qu'il imagine ne pas pouvoir ceci ou cela, il n'est pas déterminé à le faire, et conséquemment, il lui est impossible de le faire. Si, en revanche, nous avons égard à ce qui dépend de la seule opinion, nous pourrons concevoir qu'il arrive à un homme de faire de lui-même trop peu de cas. Il peut arriver en effet que quelqu'un, considérant tristement sa faiblesse, imagine que tous le méprisent, et cela alors que les autres ne pensent à rien moins qu'à le mépriser. Un homme peut encore faire de lui-même trop peu de cas si, dans le temps présent, il nie de lui-même quelque chose relativement au temps futur, duquel il est incertain. Comme lorsqu'on nie que l'on ne puisse rien concevoir de certain, ou que l'on puisse désirer, ou faire autre chose que du mauvais et du vilain. Nous pouvons dire ensuite que quelqu'un fait de lui-même trop peu de cas, quand nous le voyons, par crainte excessive de la honte, ne pas oser ce cause c'est pareil. Nous pouvons donc opposer à l'orgueil cette affection que j'appellerais mésestime de soi. Comme du contentement de soi naît l'orgueil, en effet, la mésestime de soi naît de l'humilité et peut donc se définir ainsi. 29. La mésestime de soi consiste à faire de soi par tristesse moins de cas qu'il n'est juste. Explication. Nous avons accoutumé, il est vrai, d'opposer à l'orgueil l'humilité, mais c'est qu'alors nous avons égard plutôt à leurs effets qu'à leur nature. Nous appelons orgueilleux, en effet, celui qui se glorifie trop. Scoli de la proposition 30. Ne raconte de lui que ses vertus et que les vices des autres. Veut être préféré à tous et se présente avec la même gravité et dans le même appareil que font habituellement les personnes placées fort au-dessus de lui. Nous appelons humble, au contraire, celui qui rougit facilement, avoue ses vices et raconte les vertus d'autrui, s'efface devant tous et va enfin la tête basse, négligeant de se parer. Ces affections, l'humilité et la mésestime de soi, veux-je dire, sont d'ailleurs très rares, car la nature humaine considérée en elle-même leur oppose résistance le plus qu'elle peut. Propositions 13 et 54. Et ainsi, ceux que l'on croit être le plus plein de mésestime d'eux-mêmes et d'humilité sont généralement le plus plein d'ambition et d'envie. 30. La gloire est une joie qu'accompagne l'idée d'une action nôtre que nous imaginons qui est louée par d'autres. 31. La honte est une tristesse qui accompagne l'idée d'une action que nous imaginons qui est blâmée par d'autres. Explication. Voir sur ces affections le scoli de la proposition 30. Mais il faut noter ici la différence qui est entre la honte et la pudeur. La honte est une tristesse qui suit une chose faite dont on rougit. La pudeur est la crainte ou la peur de la honte par où l'homme est empêché de faire quelque chose de vilain. À la pudeur, on oppose d'ordinaire l'impudence, qui, en réalité, n'est pas une affection. Je le montrerai en son lieu. Les noms des affections, j'en ai déjà fait l'observation, se rapportent à leur usage plus qu'à leur nature. J'ai ainsi fini d'expliquer les affections de tristesse et de joie que je m'étais proposé d'examiner. Je passe donc à celles que je ramène au désir. 32. Le souhait frustré est un désir ou un appétit de posséder une chose qui est alimentée par le souvenir de cette chose et en même temps réduit par le souvenir d'autre chose qui exclut l'existence de celle où se porterait l'appétit. Explication. Quand il nous souvient d'une chose, nous sommes, par cela même, disposés à la considérer dans le même sentiment dont nous serions affectés si elle était là, présente. Mais cette disposition ou cet effort est le plus souvent, pendant la veille, inhibé par les images des choses, excluant l'existence de celle dont il nous souvient. Quand donc nous nous rappelons une chose qui nous affecte d'un certain genre de joie, nous nous efforçons, par cela même avec la même affection de joie, à la considérer comme présente. Et cet effort est aussitôt inhibé par le souvenir des choses qui excluent l'existence de la première. Le souhait frustré est donc en réalité une tristesse qui s'oppose à la joie provenant de l'absence d'une chose que nous haïssons. Voir sur cette dernière le scoli de la proposition 47. Comme toutefois le mot de souhait frustré semble être relatif à un désir, je ramène cette affection aux affections du désir. 33. L'émulation est le désir d'une chose qui est engendrée en nous parce que nous imaginons que d'autres ont ce désir. Explication. Qui fuit, qui a peur, parce qu'il voit les autres fuir ou avoir peur, qui même, à la vue d'un autre homme se brûlant la main, retire la main et déplace son corps comme s'il s'était lui-même brûlé la main, nous disons qu'il imite l'affection d'autrui, et non qu'il a de l'émulation. ce n'est pas que nous sachions une cause de l'imitation différente de celle de l'émulation. Mais l'usage a fait que nous appelions émule celui-là seul qui imite ce que nous jugeons honnête, utile ou agréable. Voir du reste, sur la cause de l'émulation, la proposition 27 avec son scoli. Pour ce que, maintenant à cette affection, se joint le plus souvent de l'envie, voir proposition 32 avec son scoli. 34. La reconnaissance ou gratitude est un désir ou un empressement d'amour par lequel nous nous efforçons de faire du bien à qui nous en a fait affecter pareillement d'amour à notre égard. Voir proposition 39 avec le scoli de la proposition 41. 35. La bienveillance est un désir de faire du bien à celui pour qui nous avons de la commisération. Voir scoli de la proposition 27. 36. La colère est un désir qui nous excite à faire du mal par haine à celui que nous haïssons. Voir proposition 39. 37. La vengeance est un désir qui nous excite à faire du mal par une haine réciproque à qui, affecté du même sentiment à notre égard, nous a porté dommage. Voir corollaire 2 de la proposition 40 avec son scoli. 38. La cruauté ou férocité est un désir qui excite quelqu'un à faire du mal à celui que nous aimons ou qui nous inspire commisération. Explication. À la cruauté s'oppose la clémence qui n'est pas une passion, mais une puissance de l'âme qui modère la colère et la vengeance. 39. La peur est un désir d'éviter un mal plus grand que nous craignons par un moindre. Voir scoli de la proposition 39. 40. L'audace est un désir qui excite quelqu'un à faire quelque action en courant un danger que ses pareils craignent d'affronter. 41. La pusillanimité se dit de celui dont le désir est réduit par la peur d'un danger que ses pareils osent affronter. Explication. La pusillanimité n'est donc rien d'autre que la crainte d'un mal que la plupart n'ont pas accoutumé de craindre. C'est pourquoi je ne la ramène pas aux affections de désir. J'ai cependant voulu en donner ici l'explication parce qu'elle s'oppose réellement à l'affection de l'audace, eu égard au désir qu'elle réduit. 42. La consternation se dit de celui dont le désir d'éviter un mal est réduit par l'étonnement du mal dont il a peur. Explication. La consternation est donc une espèce de pusillanimité, mais comme elle naît d'une peur double, elle peut être définie plus commodément comme étant la crainte qui contient de telle sorte un homme frappé de stupeur ou flottant qu'il ne puisse écarter le mal. Je dis frappé de stupeur en tant que nous concevons son désir d'écarter le mal comme réduit par l'étonnement. Je dis flottant en tant que nous concevons ce désir comme réduit par la peur d'un autre mal qui le tourmente également. D'où vient qu'il ne sait lequel des deux détourner. Voir à ce sujet scoli de la proposition 39 et scoli de la proposition 52. En outre, sur la pusillanimité et l'audace, voir scoli de la proposition 51. 43. L'humanité ou la modestie est un désir de faire ce qui plaît aux hommes et de ne pas faire ce qui leur déplaît. 44. L'ambition est un désir immodéré de gloire. Explication. L'ambition est un désir par lequel toutes les affections sont alimentées et fortifiées. Propositions 27 et 31. Par suite, cette affection peut difficilement être vaincue. Aussi longtemps, en effet, qu'un homme est possédé par un désir, il est en même temps possédé par celui-là. Les meilleurs, dit Cicéron, sont les plus sensibles à l'attrait de la gloire. Même les philosophes qui écrivent des livres sur le mépris de la gloire y mettent leur nom, etc. 45. La gourmandise est un désir immodéré ou même un amour de la chair. 46. L'ivrognerie est un désir immodéré et un amour de la boisson. 47. L'avarice est un désir immodéré et un amour des richesses. 48. La lubricité est aussi un désir et un amour de l'union des corps. Explication. Que ce désir du coït soit modéré ou ne le soit pas, on a coutume de l'appeler lubricité. De plus, les cinq dernières affections, comme je l'ai fait observer dans le scoli de la proposition 56, n'ont pas de contraire. Car la modestie est une espèce d'ambition, comme on le voit dans le scoli de la proposition 29. J'ai déjà fait observer que la tempérance, la sobriété et la chasteté ne sont pas des passions, mais des puissances de l'âme. Eh bien, qu'il puisse arriver qu'un homme avare, ambitieux ou peureux, s'abstienne des excès de table, de boisson ou de coït, l'avarice, cependant, l'ambition et la peur ne sont pas opposées à la gourmandise, à l'ivrognerie ou à la lubricité. Car l'avare souhaite la plupart du temps se gorger de nourriture et de boisson aux dépens d'autrui. L'ambitieux, pourvu qu'il ait l'espoir de n'être pas découvert, ne se modérera en rien. Et s'il vit parmi des ivrognes et des lubriques, il sera, par son ambition même, plus enclin aux mêmes vices. Le peureux, enfin, fait ce qu'il ne veut pas. Encore bien qu'il jette à la mer ses richesses pour éviter la mort, il demeure avare. Et si le lubrique est triste de ne pouvoir se satisfaire, il ne cesse pas pour cela d'être lubrique. Et d'une manière générale, ces affections ne concernent pas tant les actes mêmes de manger, boire, etc., que le désir et l'amour de ces actes. On ne peut donc rien opposer à ces affections, sinon la générosité et la fermeté d'âme dont nous parlerons plus tard. Je passe sous silence les définitions de la jalousie et des autres fluctuations de l'âme, tant parce qu'elles naissent d'une combinaison des affections déjà définies, que parce que la plupart n'ont pas de nom, ce qui montre qu'il suffit pour l'usage de la vie de les connaître en général. Il est d'ailleurs clair, par les définitions des affections expliquées, que toutes naissent du désir, de la joie ou de la tristesse, ou plutôt, ne sont rien que ces trois qui toutes ont coutume d'être appelées de divers noms à cause des relations suivant lesquelles on les considère et de leur dénomination extrinsèque. Si maintenant nous avons égard à ces affections primitives et à ce qui a été dit auparavant de la nature de l'âme, nous pourrons définir comme il suit les affections en tant qu'elles se rapportent à l'âme seule. Définition générale des affections. Une affection, dite passion de l'âme, est une idée confuse par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps ou d'une partie dit celui, plus grande ou moindre qu'auparavant, et par la présence de laquelle l'âme elle-même est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre. Je dis, en premier lieu, qu'une affection ou passion de l'âme est une idée confuse. Nous avons montré en effet que l'âme est passive, proposition 3, entend seulement qu'elle a des idées inadéquates ou confuses. Je dis ensuite par laquelle l'âme affirme une force d'exister de son corps ou d'une partie de celui plus grande ou moindre qu'auparavant. Toutes les idées du corps que nous avons indiquent plutôt en effet l'état actuel de notre corps. Corollaire 2 de la proposition 16, partie 2, que la nature du corps extérieur et celle qui constitue la force d'une affection doit indiquer ou exprimer l'état qu'a le corps ou une de ses parties par suite de ce que sa puissance d'agir ou sa force d'exister est accrue ou diminuée, secondée ou réduite. On doit noter toutefois que, si je dis force d'exister plus grande ou moindre qu'auparavant, je n'entends point par là que l'âme compare l'état présent du corps avec le passé, mais que l'idée, constituant la forme de l'affection, affirme du corps quelque chose qui enveloppe effectivement plus ou moins de réalité qu'auparavant. Et comme l'existence de l'âme consiste, propositions 11 et 13, partie 2, en ce qu'elle affirme l'existence actuelle de son corps, et que par perfection nous entendons l'essence même d'une chose, il suit donc que l'âme passe à une perfection plus grande ou moindre quand il lui arrive d'affirmer de son corps ou d'une partie dit celui quelque chose qui enveloppe plus ou moins de réalité qu'auparavant. Quand donc j'ai dit plus haut que la puissance de pensée de l'âme était accrue ou diminuée, je n'ai rien voulu entendre, sinon que l'âme avait formé de son corps ou d'une partie dit celui une idée exprimant plus ou moins de réalité qu'elle n'en avait précédemment affirmé de son corps. Car on estime la valeur des idées et la puissance actuelle de pensée suivant la valeur de l'objet. J'ai ajouté, enfin, que par la présence de cette idée, l'âme est déterminée à penser à telle chose plutôt qu'à telle autre, afin d'exprimer, outre la nature de la tristesse ou de la joie, celle aussi du désir. Fin de la troisième partie.